Nous sommes avec Philippe Solers à propos de son dernier livre, Portrait de femme, les deux au pluriel. Évidemment, c'est publié chez Flammarion.
Alors, je vous demandais, je vous posais une question tout à l'heure, Philippe, à propos de la discrétion et de la société. Et vous en parlez vous-même dans ce livre, puisque vous racontez votre grand amour avec Dominique Rollin. Et vous racontez aussi comment vous vous êtes retrouvé avec elle, alors que vous étiez plutôt extrêmement discret sur un plateau de télévision. Et en plus, pour deux livres, et dans le sien, elle parlait de vous. Et c'était sur le plateau de Bernard Pivot, donc l'émission littéraire la plus écoutée à l'époque. Nous sommes en 2000. Je vais vous faire écouter un extrait de cette émission. Donc Philippe Solers, Dominique Rollin.
Mais Seigneur, qu'avait-il de si irrésistible, Jim ?
Irrésistible parce que...
Et qu'a-t-il de toujours irrésistible ?
Supérieur d'intelligence, supérieur dans le sens... De se vouloir complètement libre, et je trouve ça absolument magnifique, parce que c'est très rare que, dans, par exemple, un homme et une femme qui se rencontrent acceptent que l'autre se sente complètement... Chaque être humain doit se réaliser complètement. Alors, non, il est... Et puis, audacieux.
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 Une culture considérable.
Culture extraordinaire. La mémoire.
Et puis...
La musique.
Et puis autre chose que vous oubliez, le rire.
Et le rire, ça, je l'ai.
Oui, mais
je l'avais.
Mais vous l'avez tous les deux.
C'était en 2000. Son livre s'appelle Journal amoureux. Le vôtre, Philippe Solers, Passion fixe. Et vous écrivez, il était très content de son petit scoop.
C'est beau, oui.
Il y a eu un petit peu d'agitation autour, et puis c'est retombé. Lisez les livres. C'est-à-dire que vous dites, voilà, ce qui reste, c'est les livres. Mais n'empêche que ça. C'est une gestion de l'apparition, c'est une gestion du spectacle qu'il s'agit un peu de prendre à son propre piège.
Oui, c'est-à-dire que quand Pivot dit à Dominique, ce Jim dont vous parlez dans tel livre, ben c'est lui là qui est assis à côté de
il
vous.
Il est assis
Philippe,
à côté de vous.
C'est Philippe Solers.
Ouais.
Au fond...
D'ailleurs, je me souviens de ce moment de télévision,
voilà.
C'est pour vous dire.
Alors, il a pas tort, mais il a pas raison. Puisque ce Jim, c'est quelqu'un qui est là assis sur un plateau de télévision. Mais c'est beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que je dis à la fin, lisez les livres. Tout le monde a cru qu'on voulait faire People. Or, c'était pas du tout arrangé. Hein. Mmh. Il a saisi cette, ça a déstabilisé un peu Dominique. Pendant quelque temps, il y a eu l'offre d'exhiber tout ça. Vous savez. Bon, on va dans le kiosque à côté, c'en est plein, c'est Paris Match, c'est Gala, c'est Voici, c'est Closer, c'est tout ce que vous voulez.
Oui,
l'indiscrétion générale. Non, mais si, il y a eu des projets, des reportages, des choses comme ça. Non. Parce que le fait de se défendre contre la société assure simplement du temps, beaucoup de temps pour écrire, pour vivre, etc. Sinon, la société veut détruire, ne veut pas que les gens s'aiment. Tranquillement, quelque part, voilà. Donc, il faut se défendre.
Et alors,
la guerre.
Et alors, elle a répondu, oui, c'est la guerre, mais ça peut être aussi une autre guerre, et elle y répond un peu dans l'extrait qu'on vient d'écouter, Dominique Rollin, quand elle précède la question que Pivot aurait pu lui poser, et que moi, je m'apprêtais à vous poser à vous.
Allez-y.
C'est-à-dire la question de la jalousie et de l'exclusivité. Bien sûr, cette vieille question dont la littérature est pleine, comme vous savez, Philippe Solers.
Oui.
Et alors elle répond, mais je suis pour que les gens se réalisent complètement.
Oui. Oui.
C'est pas banal.
C'est pas banal, mais j'ai jamais dit que les grandes expériences amoureuses de ma vie étaient banales. Et justement, et donc les choses sont claires tout de suite. Il n'y a pas de mensonge, puisque les choses sont comme ça, ou à prendre ou à laisser. C'est tout. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui, malgré ses gros défauts, que ne choisirait aucune jeune femme d'aujourd'hui, oh non, parce que alors, il faut divorcer, se remarier, ça. Oh, c'est ce qui m'amusait lorsque j'étais aux États-Unis d'Amérique, c'était les types qui, pour pouvoir avoir une relation avec une femme, étaient obligés de les épouser. Puis alors, ils divorçaient. J'en ai connu plein. Ils en étaient à leur cinquième ou sixième divorce. C'est comme Norman Mailer, à qui j'ai dit pourquoi vous avez écrit ce gros bouquin absolument illisible sur l'Égypte. Il me dit, j'ai 9 pensions alimentaires. Il était à son, je sais pas combien d'années, il me divorce. Ou alors, il y avait évidemment une agitation homosexuelle mâle très forte avant l'explosion du sida. Mais comme j'étais pas client dans cette région, donc il fallait pas non plus tomber sur les Américaines. Ça a l'air le comble de la névrose appropriante, hein, le comble de l'infection. Heureusement, New York est une ville que j'adore, était pleine de Chinoises, d'Italiennes, ou merveille, merveille de latino-américaine, vous comprenez? C'est-à-dire des femmes qui comprennent leur plaisir, leur propre intérêt et qui ne sont pas là en train de... Si les types se laissent diriger ou matriarquer, etc., c'est leur faute, c'est pas la faute des femmes. Les femmes sont extraordinairement arrangeantes quand ça les arrange.
Mes souvenirs de lecture, là, pour le coup, vous allez me corriger, dans Femmes, il me semble qu'il y a une scène à 3 à New York avec un couple de lesbiennes dont vous dites elles vont refaire l'amour ensemble une fois que j'aurai passé la porte ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, alors...
Je l'ai pas inventé, ça.
Non,
bon, ben alors, elles étaient pas si terribles, ces Américaines, que vous qualifiez puritaines, chiantes.
Je suis pas sûr que ce soit des Américaines, d'ailleurs.
Ah, d'ailleurs, voilà, c'était peut-être pas des Américaines.
Vous savez quelle est la photo la plus extraordinaire pour moi? C'est Cartier-Bresson qui a surpris, en ouvrant une porte d'hôtel, deux lesbiennes en train de faire l'amour. C'est une photo magnifique. Hein. Il l'a prise à toute allure, c'est lui qui l'a dit, dans le couloir, depuis le couloir. C'est une merveilleuse organisation picturale. Et donc, oui, non, là, je n'ai jamais compris en quoi consistait la jalousie appropriative sexuelle. Jamais. Je comprends pas. Je comprends pas de quoi il s'agit. Là, la formule de Sartre est bonne avec Beauvoir, amour contingente. Ils ont bien fait ça. Là où ça marche pas du tout, c'est quand ils ont décidé de faire de la transparence réciproque. Ça, il faut jamais.
Oui.
Jamais de transparence.
Voilà. C'est-à-dire que vous êtes pour la théorie des amours contingentes et des amours nécessaires.
Oui.
Mais vous n'êtes certainement pas pour l'aveu, la transparence, le récit et toutes ces sortes d'autres choses.
Ça, c'est totalitaire. C'est absolument injustifiable. D'autant plus que ça tourne tout de suite aux comparaisons et aux blessures. Il faut l'important dans la vie est d'éviter de blesser, de durcir les situations, c'est tout. Oh, si on est un peu dialectique, on y arrive. Mais enfin, il faut savoir faire.
Vous racontez aussi, quand même, vous faites quelques allusions, ça ne va pas toujours tout seul non plus, là, ce que vous venez de décrire. Vous dites quand même qu'il y a eu, quelques orages.
Oui. Finalement, j'ai une théorie là-dessus, c'est-à-dire 30% de défauts, ça va, ça fait 70% de qualité. Donc 70% de qualité chez quelqu'un, c'est énorme. 30% de défauts. Alors si ça dépasse 30%, évidemment, il faut passer à autre chose. N'oubliez pas que le débutant, comme je l'appelle à un moment donné, parce que c'est un traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, très immoral, hein, très très immoral. Il faut bien dire que la morale est en revenu.
Fréquentation des prostituées.
Ah, oh, ça c'est vraiment...
Mais, des bordels de Barcelone, pas beau ça.
Ah, c'est horrible, vous auriez dû souligner ça.
Non mais je le dis un peu tard, mais
faut couper,
je le dis.
Faut couper. Le barrio chino.
Oui,
voilà.
Oui.
Voilà où j'ai fait mes études, monsieur, plutôt que de faire des études réelles. Donc j'ai mon diplôme. Et si j'ose dire, comme Picasso dans les bordels de Barcelone, parce que les demoiselles d'Avignon, elles n'étaient pas à Avignon, elles étaient dans la rue d'Avignon, en bas, à droite, à Barcelone, je vous montrerai l'endroit si vous voulez, le barrio chino. Les femmes de cet endroit, de cette époque, on en trouve encore, enfin, les Espagnols sont bénis, ça commence par une Espagnole, ça continue beaucoup dans cette catégorie. On me dit qu'à Cuba...
Ça commence par une Basque.
Une Basque espagnole, les pires, les meilleurs, la ténacité. Oh oui, les Basques, c'est un peuple très étrange. Mais bon, et on me dit qu'à Cuba, c'est Lançon qui me dit ça, il va à Cuba de temps en temps.
Philippe Lançon, oui, excellent confrère de Libération.
Oui, oui, il a l'air très content de ses visites à Cuba. Mais c'est fort possible, je ne suis pas allé à Cuba, vous avez tâté la région.
Non.
De ce point de vue non plus.
Non, je le regrette, croyez-le bien, mais non.
et alors, je pense que l'avenir, quand même, parce que la Blanche a fait beaucoup son temps, hein, comme on dirait. Hein, l'avenir, la Blanche a fait son temps, Madame Bovary, ça va, on a compris, là, je vous dis patati patata, bon, d'accord, super. Non, comme la Blanche a fait son temps, là, je pense que l'avenir est à la chinoise, et que je vous recommande, si jamais vous voyagez un peu, enfin, y compris n'importe où, à New York, à Paris. La chinoise arrive tout juste, hein, voilà. Les Chinois sont déjà en train d'acheter du Bordeaux. Ils vont se civiliser donc assez vite. Ils aiment ça, ils adorent ça. Vous savez qu'ils sont fous de cognac. Vous savez, quel est le cognac qu'ils boivent, qui est servi en carafe? Parce que vous savez qu'il y a plus de millionnaires maintenant chinois qu'américains. Enfin, l'Amérique décline et s'effondre.
Et les Chinois boivent le cognac en mangeant. Hein,
Oui, ils se boivent le cognac, ils sont fous. Enfin, ils vont se civiliser. Attendez. Et le cognac qu'ils préfèrent, ça s'appelle le Louis XIII. C'est dessus ou une autre marque de cognac. Et alors, ils vont se demander un jour qui était Louis XIII. S'ils se demandent qui était Louis XIII, ils vont lire les Trois Mousquetaires, ils vont apprendre qu'ils étaient quatre, etc. Voilà. Tout mon effort, c'est le contraire avec Poutine et tout ça, c'est sans issue. Tout mon effort, c'est de convaincre de plus en plus de Chinois de s'intéresser à la littérature française. Et si j'arrive à avoir dans un dictionnaire chinois de la fin du XXIe siècle, Solers, écrivain européen d'origine française, qui très tôt et presque seul s'est intéressé à la Chine, j'aurais réussi. Parce que des maoïstes, comme on a dit, y compris pas le cher Badiou, ils étaient maoïstes, mais ils savaient pas où était la Chine. Voyez-vous, c'est curieux de s'intéresser à Mao sans savoir dans quel pays il opère. Alors 1,3 milliard de Chinois, suffit qu'un million, donc oui, un million ou deux ou trois s'intéresse à la littérature française, et elle sera sauvée. Sinon, je ne la vois pas sauvée en Corrèze.
En fait, vous voudriez que les Chinois soient vos Qataris, quoi.
Je crois que la différence entre les Chinois et les Qataris, c'est que d'abord, ils se déguisent pas, et deuxièmement, ils croient à rien.
Vraiment à rien.
Alors, rien du tout, monsieur. Il faut...
À la consommation, on attendrait envie de vous répondre.
Il y a une culture millénaire. Alors, c'est ça qui me choque toujours, c'est de voir à quel point les gens sont étrangers à ça. Il y a 3000 ans, la civilisation qui est reconnue et étudiée aujourd'hui même partout. Je pourrais vivre à Shanghai. Vous savez que l'université de Shanghai me propose d'être là pour parler d'un peu tout. Je pourrais faire des conférences sur le vin de Bordeaux. Oui, ça, je vous assure, de par Dieu, c'est rien. En Mordeaux, vie avec Poutine, ce plouc. Non, les Chinois sont extraordinairement raffinés, ils s'intéressent à tout, ils s'intéressent beaucoup à leur propre culture, et ils ont 3000 ans de culture derrière eux. Où était la France au 7e siècle, sur monsieur, où il n'y avait pas encore de cathédrale? Où était la Belgique? N'en parlerait même pas. Et où était la Russie? Ben vraiment, c'est pas raisonnable.
Non, oui, d'accord.
La Chine, croyez-moi, c'est l'avenir.
La Chinoise.
Et pas via Zemsky et Godard, non, parce qu'une vraie Chinoise, c'est autre chose.
Alors, on veut interdire la prostitution, point d'interrogation. La vraie raison est d'empêcher l'esclavage organisé et les filières criminelles mafieuses, elle n'est pas discutable. Mais quelque chose me dit qu'une source noire plus profonde est à l'œuvre. On veut empêcher le débutant de faire ses études, d'apprendre le dessin, la couleur, la grammaire, la logique, et tout simplement, ne serait-ce que par contraste, la pureté, la raison... le goût. Et après, vous vous étonnez de vous faire traiter de réactionnaire. C'est-à-dire que
c'est un programme de civilisation.
Oui, par la prostitution.
Écoutez, j'ai connu beaucoup de prostituées, dont certaines d'ailleurs sont devenues pas vraiment des amies, mais voilà. Non, charmante, absolument. Et je leur rends hommage parce que s'attarder, c'est comme les masseuses ou les femmes comme ça qui connaissent souvent mieux votre corps sans connaître que les femmes avec qui vous avez l'habitude d'exister. Écoutez, c'est pour ça que je parle du débutant. Il doit faire ses études. Moi, j'ai fait des études assez poussées. Je vous ai dit que j'avais mon diplôme de Barcelone. Et ça m'a fait gagner un temps fou. Au lieu de m'intéresser aux bourgeoises de mon époque, puisque j'étais de tendance très, très, très hétérosexuelle, à quoi bon le cacher? Personne n'est parfait. C'était un homme et une femme comme une autre, comme on dit. Au chambard. Bon, tout ça, c'est dans un désordre absolu. On ne sait plus où on est, là. Non, il faut commencer très tôt. C'est ce qui m'est arrivé. Ouais.
Vous avez eu de la chance, là, pour le coup.
Bah, c'est oui.
Non, mais vraiment de la chance, parce que souvent, le jeune homme, le jeune garçon que vous étiez, 15 ans, bon, doit justement sortir de chez lui. Alors, je trouve qu'à cette époque-là, l'initiation, la plupart du temps, se faisait au bordel. Vous, l'amour, le sexe, l'érotisme, et puis même une profonde amitié, visiblement.
De l'amour.
Tout ça, c'est arrivé chez vous. Oui. C'est arrivé à domicile.
Oui.
Eh oui, vous avez eu du cul.
C'est ce que je pense aussi. C'est du cul, comme vous dites, joliment, mais montez un peu dans les étages. et sachez que ça se passe aussi par des frissons de nature, etc. On apprend la nature comme ça. J'étais très sensible. J'ai dit que, pour commencer, que j'essayais d'être peintre. La nature m'attirait beaucoup. Donc, les femmes que j'aimais, ou avec qui j'ai eu des relations très profondes, me révélaient tout simplement la nature. C'est-à-dire les arbres, l'herbe, l'océan, la nage, voilà, tout ça. La nature, la nature, la nourriture, la nature, la nature, le sommeil, la peau, la façon de toucher.
Ça va loin, votre histoire, non, parce que cette histoire avec cette domestique.
N'appelez pas comme ça.
Justement, c'est à ça que je veux arriver. Dans votre famille, on est très loin. C'est à ça que je pensais. Vous savez, du troussage de domestiques dont avait parlé Jean-François Kahn à propos quelle horreur à propos de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, parce que vous racontez.
Ce sont des porcs,
voilà.
Ceux qui le font et ceux qui en parlent.
C'est pour ça que le côté amour ancillaire, troussage domestique, vous n'aimez pas beaucoup tout ça, ni toutes ces expressions-là. Et vous racontez.
C'est comme le fait, je viens de lire ça, il y a un programme de radio avec Laure Adler, je ne sais pas si elle a rédigé elle-même. Ça veut dire ce qui a été dépucelé. Mais enfin, mais de quoi, qu'est-ce que ça veut dire dépucelé? Mais qu'est-ce que ça veut
c'est
dire?
C'est pas pour la défendre, mais là je pense qu'elle y est pour rien. Hein. C'est
bah
pas
alors,
ça,
alors,
je
alors,
pense, hein, mais bon.
Bah ouais, mais ça me choque. Les amours ancillaires, ça me choque.
Oui.
La bonne, ça me choque. L'employé de maison,
oui. Troussage domestique, très désagréable. Domestique.
C'est un porc parlant d'un porc. Et donc, je n'ai aucune sympathie pour la sexualité masculine traitée comme ça, parce que je trouve ça absolument grotesque, odieux. Et en plus, quand ça finit par une fellation à 6 millions de dollars,
minimum.
C'est minimum, c'est quand même trop cher pour ce que... Voilà.
Tandis que la scène.
Faut parler de la fellation. Fellation, c'est un très joli mot. Oui. Enfin, il n'y a pas que le bourrage obsédé, comme on le croit la plupart des ploucs masculins. Hétéro-ploucs.
Tandis qu'avec Eugénia.
Mais il y a des homo-ploucs comme il y a des hétéro-ploucs. Donc voilà.
Voilà. Oui, alors justement, les hétéro-ploucs, là, en revanche, c'est une scène de roman. Parce que la scène où Eugénia, alors que vous êtes en hôpital psychiatrique, militaire, parce que vous voulez être réformé, vous n'avez pas envie de faire la guerre d'Algérie, vous avez bien raison, vous retrouve, vous voit.
Dominique, c'est Dominique.
C'est Dominique, là, qui vous retrouve, etc. Ça, c'est du roman, pour le coup. C'est une scène de roman.
C'est une scène qui a eu lieu précisément. Parce que là, j'étais très choqué. Il se trouve que Debré a republié un truc qu'il a écrit il y a 13 ans, enfin bon, dans Marianne, où il me couvre d'injures parce qu'il s'était cru attaqué, je m'en fous. Mais il y a une erreur. Il dit en 1960, Soler, c'était Algérie française. Je lui ai envoyé un mot pour lui dire que s'il transposait ce livre en Pléiade, il faudrait une note pour dire que j'avais jamais été Algérie française parce que j'ai passé 3 mois dans des hôpitaux militaires à maigrir de 25 kilos. Et,
pour ne pas y aller, justement.
Et à faire la grève de la faim, je suis réformé numéro 2 pour terrain schizoïde aigu. Et s'il n'y avait pas
c'est
eu...
bien qu'il s'en soit aperçu.
Je leur ai soufflé. Oui. Je peux vous raconter la scène si vous voulez, mais j'ai été libéré grâce à Malraux qui m'a fait libérer, sans quoi je y serais encore.
Ouais, ouais.
Donc faut pas déconner parce que qu'on m'insulte, je veux bien. Bon, ça fait partie des trucs, mais pas d'erreur historique, politique, non.
Ouais. Autre scène de roman formidable à Venise.
Mais c'est pas du roman, ça, ce que je raconte.
Non, mais justement, celle-là.
Ma vie est assez romanesque.
Non, mais voilà. Stendhal. Alors. Il y a un concert en l'honneur de Jean-Paul II à la Fenice, c'est-à-dire à l'Opéra de Venise, et puis vous n'êtes pas invité, vous n'avez pas de place. Mais non. Vous décidez d'y aller quand même, et c'est après l'attentat qui a touché le pape, c'est après qu'il se soit fait cadarder.
La scène que je raconte est rigoureusement exacte, je suis avec Dominique à Venise, comme nous y allions très souvent, et il y avait un concert donné pour Jean-Paul II. Nous sommes en 1985, soit 4 ans après qu'un Turc nauséabond manipulé par les sexes soviétiques, dont Poutine est l'héritier kagébiste, est allé tirer, là, il a eu le mauvais goût d'aller tirer 2 balles dans le ventre sur ce pauvre pape, place Saint-Pierre, événement qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'en plus, ça a déclenché la Pologne, c'est tout ça. Bon. Donc, il y a un concert à Venise, où d'ailleurs, on avait choisi de lui jouer une symphonie de Gustave Mahler, au lieu de lui prendre un peu de la musique de sa confession. Je ne sais pas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Monteverdi, il y a Vivaldi, il y a Mozart. Bon, c'était très ennuyeux. Alors, je dis à Dominique, on était en train de grignoter quelque chose. Je dis, on va aller voir ce concert, mais elle me regarde. Elle avait l'habitude de me trouver fou, mais de façon sympathique, empathique. Elle me dit, on n'a pas d'invitation, on rentrera jamais. Je dis, on va voir, voilà. Donc j'avais une vieille veste Mao ramenée de Pékin, donc tout à fait dépenaillée. Elle était, elle, au contraire, très bien habillée. Ah, attention. Et alors, ce que je vous dis est vrai. C'est pas du roman, c'est vrai. On a témoigné, d'ailleurs, bon. On a franchi il y avait un dispositif de sécurité absolument monstrueux à la Fenech, ça venait autour. La police, l'armée, les cartons d'invitation, la fouille au corps, la fouille des sacs, la fouille tout. Voilà. Et on traverse, invisible. Et on arrive sur le perron de l'opéra. Et un type me regarde comme ça, il regarde Dominique, et il me dit, mais enfin, monsieur, vous avez votre... Je lui dis, non, j'ai pas d'invitation, mais monsieur, vous allez me laisser passer, parce que c'est très important pour moi d'assister à ce concert. C'est comme si Stendhal...